Chapitre 10e. La grande trouée. Nous nous mîmes en route par une âpre journée d'hiver, tout à la fin de 1899. Il y avait bien des chances pour que, dans le cours d'un aussi long trajet, nous fussions bloqués par la neige. Cependant, nous arrivâmes d'une traite à Vienne par une nuit glacée. Fouettés par un vent qui nous cinglait la figure, la neige tourbillonnait dans l'air et s'amoncelait sur le sol. De la gare, sous les globes électriques, nous voyions scintiller contre la noirceur du ciel l'argent des flocons. C'était là pour nous une triste réception et de fâcheux augure, mais une demi-heure plus tard, à l'hôtel, mêlé à la foule du restaurant, dans une chaude et douillette atmosphère qu'alourdissaient les vapeurs du tabac, nous nous prîmes à des idées plus riantes. Nous trouvâmes une modeste pension dont les prix répondaient à nos moyens, et nous y vécûmes agréablement 4 mois. J'assistais au cours d'ophtalmologie du Krankenhaus, mais certainement j'aurais appris davantage à Londres, car c'est une chose que d'entendre à peu près une conversation en allemand, et une autre toute différente que de suivre, sans en laisser rien échapper, un exposé rapide, bourré de termes techniques. Sans doute cela fait bien, pour un spécialiste, de pouvoir, dans l'énumération de ses titres, se prévaloir d'études à Vienne. Mais d'ordinaire, cela suppose qu'avant d'aller à l'étranger, on a fait, dans son propre pays, des études complètes, et ce n'était pas le cas pour moi. Sous le rapport du travail, je perdis mon hiver à Vienne, et je n'y réalisais non plus aucun programme oral ou spirituel. En revanche, j'approchais un peu l'aimable société viennoise. Je reçus le plus bienveillant accueil de Brinsley Richard, correspondant du Times, et de sa femme. Je fis d'excellents patinages. J'écrivais en outre un petit roman, Raffles Howe, assez médiocre, mais grâce auquel je payais nos dépenses courantes sans toucher aux quelques 100 livres qui constituaient ma fortune. J'avais, sur les conseils d'un ami, placé cet argent, mais je le perdis presque entièrement, comme tant d'autres que j'ai gagnés depuis. Il est donc heureux que je n'ai pas eu à en faire état. Au printemps, mes travaux de Vienne étant terminés, si je puis dire qu'ils eussent jamais commencé, nous repartîmes pour Londres, via Paris, où je passais quelques jours auprès de Landolt, qui était l'oculiste français le plus fameux de l'époque. Ce fut pour nous un événement que de nous retrouver à Londres, avec la sensation que nous étions là sur notre vrai champ de bataille, qu'il nous fallait vaincre ou périr, car nous avions brûlé nos vaisseaux. Certes, aujourd'hui, en regardant derrière moi, je vois trop bien que l'issue ne pouvait faire doute. Il m'était moins facile de le voir dans le moment. Si je gagnais peu, ma réputation d'écrivain allait s'étendant. Ma foi dans les qualités durables de la Compagnie Blanche, qui continuait de paraître mois par mois dans Cornhill, entretenait mon courage. J'avais, lors de mes débuts à Southsea, franchi tant de traverses que rien ne pouvait m'alarmer personnellement. Il est vrai qu'à présent j'avais femme et enfant, et ne pouvais plus envisager cette austère simplicité d'existence qui m'était naguère possible, qui même avait son attrait. Nous nous installâmes à Montague Place, après quoi je cherchai un local où poser ma plaque de médecin oculiste. Je savais qu'en général, les gros bonnets du métier ne trouvent pas de temps pour s'occuper des réfractions, qui dans certains cas sont très longues à corriger par la rétinoscopie. J'avais pour ce travail des dispositions et du goût, et j'espérais par lui faire mon chemin. Mais pour cela, il m'était évidemment nécessaire de vivre parmi les patrons, afin qu'il leur fût commode de m'adresser les malades. J'explorai le quartier des médecins et finis par trouver un local convenable au numéro 2 de Devonshire Place, en haut de Wimpole Street, tout près de la classique Harley Street. Là, pour un loyer annuel de 120 livres, je louai une pièce en façade avec participation à l'usage d'une salle d'attente. Mais je ne tardai pas à m'apercevoir que mon cabinet était une salle d'attente lui aussi. Je m'en félicite à l'heure actuelle. Chaque matin, je partais à pied de mon domicile, Montague Place. J'étais à 10 heures dans mon cabinet et j'y demeurais 3 ou 4 heures sans que jamais un coup de sonnette troublât ma sérénité. Eussé-je rêvé conditions meilleures pour la réflexion et le travail? C'était idéal. Plus le succès professionnel tardait à venir, plus j'avais de chances d'élargir mes perspectives littéraires. Chaque fois qu'à l'heure du thé je rentrais chez moi, j'y portais ma petite gerbe, prémisse d'une copieuse moisson. À cette époque commençait de paraître un certain nombre de magazines, entre lesquels se signalait le Strand, dirigé, comme il l'est encore, par Greenhouse Smith. Considérant ces divers recueils d'histoires détachées, je songeais qu'un même personnage circulant à travers une série de nouvelles, s'il parvenait à capter l'attention du lecteur, l'enchaînerait à son magazine. D'autre part, il me semblait que le feuilleton ordinaire était, pour un magazine, moins une aide qu'une gêne, puisque tôt ou tard, on allait laisser passer une coupure et qu'après cela il avait perdu tout intérêt. Le compromis parfait serait un personnage qu'on retrouva dans chaque feuilleton, et des feuilletons dont chacun se suffit à lui-même, si bien que le lecteur put toujours se promettre de savourer la totalité du magazine. Je crois que je fus le premier à concevoir cette idée, et Lestrade à la mettre en pratique. Sherlock Holmes, que j'avais déjà présenté dans deux petits livres, devait se prêter sans peine à une série de nouvelles. Je me mis à les écrire durant les loisirs que m'octroyait libéralement mon cabinet de consultation. Greenhouse Smith les aima tout de suite et m'engagea fort à les continuer. J'avais confié mes intérêts littéraires à M.A.P. Watt, roi des agents. Non seulement il m'affranchissait de marchandages odieux, mais il menait assez bien mes affaires pour me soulager financièrement de toute inquiétude. Les clients avaient bien fait de ne jamais franchir mon seuil. J'étais à la croisée des chemins. La Providence, dont je reconnais à tout instant la sollicitude, me le fit comprendre d'une façon peut-être déplaisante mais énergique. Un matin, sortant de chez moi pour ma corvée quotidienne, je me sentis parcouru de frissons glacés et n'eus que le temps de rentrer chez moi avant de m'effondrer sous une attaque violente d'influenza. Cette maladie était alors dans sa première et funeste nouveauté. 3 ans auparavant, ma sœur en était morte à Lisbonne, après une vie tout entière dévouée au soutien de ma famille et quand mes succès allaient me permettre de l'arracher à sa longue servitude. C'était mon tour à présent, et il s'en fallut de peu que je ne la suivisse. Je ne me rappelle ni souffrance, ni malaise extrême, ni phénomène psychique. Cependant, je fus 8 jours en grand danger, et je sortis de là, faible et émotif comme un enfant, mais l'esprit limpide comme du cristal. Faisant retour sur ma vie, je m'avisais que c'était folie à moi de gaspiller dans un cabinet médical de Wimpole Street mes profits littéraires, et dans un élan irrésistible, je décidai de couper la mare, de m'en remettre désormais à mes talents d'écrivain. Il me souvient que, transporté de joie, je saisis de ma main débile un mouchoir posé sur mon lit et le lançai au plafond. J'allais enfin être mon maître. Je n'aurais plus à endosser la tenue professionnelle, à tâcher de complaire aux autres. Je serais libre de vivre où et comme il me plairait. Ce fut un des moments les plus heureux de ma vie. Il se situe en août 1891. Bientôt, je commençais d'aller et venir, clopin-clopant, appuyé sur ma canne, et me disant que si jamais j'atteignais l'âge d'octogénaire, j'en aurais eu l'avant-goût. Je hantais les agences de location, me procurais des listes de villas suburbaines, et les forces me revenant, passais des semaines à chercher une nouvelle demeure. Je finis par en dénicher une à ma convenance, modeste mais confortable, isolée, bien que située dans une rue. Elle portait le numéro 12 de Tennyson Road à South Norwood. Nous nous y établîmes et, pour la première fois, j'ai entrepris de vivre uniquement de ma plume. Il me fut très vite démontré que j'avais pris le parti conforme à mes moyens et que je n'aurais pas de peine à nous assurer un revenu suffisant. Il me sembla que la vie où je m'installais avait des chances d'être stable. Je ne prévoyais pas le coup prêt à s'abattre sur nous et que nous n'étions pas au terme, mais en réalité au début de nos vagabondages. Je me disposais d'un cœur résolu à faire une œuvre qui mérita proprement le qualificatif de littéraire. La difficulté des histoires de Sherlock Holmes, c'était que chacune d'elles avait, autant qu'un long roman, besoin d'un sujet bien tranché et original. Ourdir continuellement des sujets, cela ne va pas sans effort. La trame risque d'être trop mince et de se rompre. N'ayant plus l'excuse d'un manque absolu d'argent, j'étais déterminé à ne rien écrire qui ne fût aussi bon que possible. Désormais, je ne mis plus sur pied une histoire dont le sujet n'en valut la peine et où je ne prisse moi-même intérêt, car c'était la condition primordiale pour y intéresser les autres. Si j'ai pu soutenir un très long temps mon personnage, et si le public trouve, s'il doit continuer de trouver que la dernière histoire vaut la première, c'est que jamais je n'en ai forcé une. Il y a eu cependant quelques personnes pour juger qu'à la longue elle baissait de niveau. Cette opinion me fut carrément exprimée par un batelier de Cornouailles. « Je veux croire, monsieur, me dit-il, que Holmes ne s'est pas tué le jour où il a dégringolé d'une falaise. Ma fait certain, c'est qu'ensuite il n'a jamais été tout à fait le même homme. » Malgré cela, j'estime que si le lecteur veut commencer la série par la fin, c'est-à-dire apporter un esprit tout frais aux dernières histoires, il tombera d'accord avec moi que leur niveau commun peut n'être pas très relevé, mais que du moins la dernière vaut la première. Fatigué pourtant d'inventer des sujets, je m'attelai à une œuvre qui, ne fût-elle pas aussi rémunératrice, aurait, littérairement, des visées plus hautes. Je me sentais une vieille inclination pour le siècle de Louis XIV et pour ses huguenots, qui furent les équivalents français de nos puritains. Je connaissais bien les mémoires du temps, et j'avais quantité de notes déjà prêtes. J'écrivis donc rapidement Les Réfugiés. Ce roman a bravé l'action corrosive des années. J'ai donc le droit de prétendre qu'il fut une réussite. La traduction française ne s'en fit pas attendre, et ma chère vieille mère, très versée dans l'étude du français, eut la joie, un jour qu'elle visitait Fontainebleau, d'entendre le guide officiel déclarer aux touristes que s'ils désiraient se bien renseigner sur le siècle et la cour du grand roi, ils consulteraient avec fruit l'ouvrage d'un Anglais, Les Réfugiés. À propos de ce livre, il me revint à l'esprit une amusante anecdote. Lors d'une lecture à haute voix qui en fut faite dans un sévère couvent d'Irlande, la révérende mère s'imagina innocemment qu'il était l'œuvre d'un chanoine et par conséquent d'un saint homme. La lecture fut, paraît-il, un triomphe, et pour la joie des bonnes sœurs, elle put s'achever avant que ne se découvrît la méprise de la révérende mère. Mon prénom, du reste, a plusieurs fois donné lieu à des erreurs. C'est ainsi que dans un grand dîner à Chicago, je fus prié de réciter les grâces comme étant le seul ecclésiastique présent. Je menais une vie laborieuse à Norwood. Dans un bref espace de temps, j'écrivis, outre Les Réfugiés, trois petits romans. L'un, d'abord La Grande Ombre, que je mettrai, pour la qualité, au premier rang de mon œuvre, puis deux autres de mérite bien inférieur, Le Parasite et Orville. De ce dernier, qui était un tableau de la vie domestique, genre nouveau pour moi, une contrefaçon parue à New York avant que n'eût été promulgué l'acte du copyright. Le forban d'éditeur, ne sachant rien de moi, mais pensant qu'un portrait d'auteur, quel qu'il fût, ornerait avantageusement la couverture, m'y personnifia sous les espèces d'une élégante et très jolie jeune femme. J'ai gardé un exemplaire de cette flatteuse présentation. Chacun des livres que je viens de dire eut un succès honnête, sans plus. Ce que le public réclamait de moi, c'était des histoires de Sherlock Holmes, et je m'appliquais de temps en temps à lui en fournir. Lorsqu'enfin j'en eus écrit deux séries, je compris le danger de me laisser contraindre au point qu'on ne vit plus dans mon œuvre que ce qui m'en paraissait le moins relevé. Pour bien marquer ma volonté, je pris le parti d'en finir avec mon héros. C'est alors que, faisant en Suisse un petit voyage d'agrément, j'allais avec ma femme admirer la cataracte de Reichenbach. Il me sembla que ce lieu terrible serait une digne sépulture pour mon pauvre Sherlock. Dussé-je enterrer du même coup mon crédit en banque. Je l'y couchai donc, bien décidé à l'y oublier, et le fait est qu'il resta quelques années. Mais l'événement suscita une émotion qui me surprit. Un homme, dit-on, n'est jamais bien apprécié qu'après sa mort. Par la protestation qui accueillit de toutes parts mon exécution sommaire de Holmes, je sus combien il avait d'amis. « Brute !» m'écrivait une dame, au début d'une lettre de reproche, où je suppose qu'elle ne parlait pas pour elle seule. On m'assura que beaucoup de mes lecteurs versaient des larmes. Tout cela, je crois, ne m'eût guère touché. Si je fus heureux, c'est simplement que l'occasion m'était offerte d'ouvrir à mon imagination une nouvelle carrière, car la tentation des gros prix était trop forte pour que ma pensée se détachât facilement de Holmes. La preuve qu'aux yeux de bien des gens, Sherlock Holmes était autre chose qu'un mythe, c'est qu'il m'arrivait des tas de lettres à son nom, avec prière de faire suivre. Watson en recevait de son côté un bon nombre, lui demandant l'adresse et un autographe de son brillant collègue. Une agence de presse lui écrivit même pour solliciter l'abondement de Holmes. Le jour que Holmes prit sa retraite, plusieurs vieilles dames s'offrirent à tenir sa maison. L'une d'elles, afin de se concilier ses grâces, affirmait qu'elle s'entendait comme personne à l'élevage des abeilles et qu'elle était de force à isoler la reine. Il me fut fait pour Holmes des propositions considérables au cas où il daignerait examiner et résoudre certains mystères de famille. Une fois, l'homme me sollicita personnellement de me rendre en Pologne, aux conditions qu'il me plairait de fixer. J'eus assez de jugement pour décliner l'invitation. On m'a souvent demandé si j'avais en moi les facultés dont j'ai gratifié Holmes, ou si je n'étais qu'un Watson qui regarde. Bien entendu, je sais que, d'être prise avec un problème positif, c'est une autre affaire que d'avoir à le résoudre sur des données qu'on a soi-même déterminées. Je ne me paye à cet égard d'aucune illusion. Mais d'autre part, on ne saurait tirer de son fond intime un caractère, le développer, lui donner vraiment la vie, si l'on ne porte en soi quelques éléments de ce caractère. Aveu dangereux, chez un homme qui, autant que moi, crée des chenapans. Dans mon poème « La chambre intérieure », décrivant notre personnalité multiple, je parle de ces figures à peine distinctes, sévères ou falotes, figures de sauvages ou de saints, qui apparaissent au-dedans de nous et s'y évanouissent. Aussi bien s'y peut-il trouver celle d'un astucieux détective, mais pour que je la retrouve dans la vie réelle, il me faut d'abord inhiber toutes les autres et me créer un état d'esprit où elle est seule une place. Alors j'obtiens des résultats. Et c'est ainsi que j'ai résolu, par les méthodes de Holmes, plusieurs problèmes qui avaient dérouté la police. Force m'est pourtant de reconnaître qu'à l'ordinaire, je n'ai rien d'un observateur, et que je dois me mettre dans une disposition toute artificielle pour constater l'évidence et prévoir la suite des événements.